Bienvenue sur le podcast Le français avec Yasmine. Je suis Yasmine Le Cire, professeure rebelle de français langue étrangère et fondatrice de l'école Island French. Une école qui offre des cours de français pour adultes dans le monde entier. Avec Le français avec Yasmine, je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. Nouvelle interview dans le podcast Le français avec Yasmine. Aujourd'hui, mon invitée, c'est Céline Chevalier, la fondatrice de l'école Os Franceses Non Toman Bagno. Non, c'est pas vrai. Le vrai nom, c'est Os Franceses Toman Bagno. Donc, les Français prennent des douches. Contrairement à la rumeur au Brésil, comme quoi les Français ne prendraient pas de douche. Ça faisait un petit moment que je suivais Céline sur les réseaux sociaux. En fait, si tu me suis depuis un petit moment, tu sais que j'apprends le portugais brésilien. Et pour booster mon portugais de manière régulière et mettre le plus de portugais dans ma vie quotidienne, je suis des professeurs de français. Attention, c'est peut-être bizarre, mais tu devrais absolument appliquer ce conseil pour ton apprentissage du français. Écoute bien. Donc, je suis du verbe suivre. Hein. Attention, pas du verbe être. Donc, je suis en train de suivre des professeurs de français qui s'adressent à un public qui parle portugais. Et donc, les explications sont en portugais, ce qui m'aide, moi, à comprendre, par exemple, une expression française que je connais très bien, et elle va être expliquée en portugais, et très souvent, elle va être accompagnée de la traduction en portugais. Donc, moi, ça m'aide à booster mon portugais, et aussi à fixer et à connecter le portugais avec le français. Donc, ça, c'est pour ça que ça fait un moment que je suis Céline sur les réseaux sociaux et surtout sur Instagram. Et ça faisait donc un moment aussi que j'adorais son contenu, j'adorais aussi son énergie. Et je me suis dit, j'ai envie de connaître cette personne. J'ai l'impression, évidemment, comme je la vois régulièrement sur Instagram, j'ai l'impression de la connaître, mais j'ai envie de connaître son parcours, comment elle a fait pour commencer à donner des cours de français, pourquoi elle est partie au Brésil, pourquoi le nom de son école. Et donc, voilà, ça faisait un petit moment que je voulais la voir comme invitée. C'est chose faite. Donc, dans cette interview, elle répond à toutes mes questions. Et en plus, dans cette interview, on se confie toutes les deux sur la charge de travail de la création de contenu en ligne. Comme tu sais, moi, je crée un podcast, mais aussi du contenu sur Instagram. Et en fait, la plupart de ces choses-là sont gratuites pour toi, pour t'aider à booster ton français. Mais pour nous, ça nous demande du temps et aussi parfois de l'argent, par exemple, pour créer ce podcast. La production du podcast n'est pas gratuite, donc il y a mon temps, mais il y a aussi toute une équipe qui est derrière que je dois payer pour produire à chaque fois un épisode. Et donc, on se confie, on est vraiment très honnête et très transparente sur notre métier de créatrice de contenu, et en plus d'être professeur, évidemment. Et franchement, j'ai adoré cette conversation, c'était très honnête. Elle se livre aussi sur ses difficultés. J'ai parlé aussi de mes difficultés, par exemple, à un moment donné où dans l'école Island French, ça a été très compliqué. Et franchement, c'est une interview qui est géniale. Donc, tu vas pouvoir découvrir une nouvelle professeure de français que tu vas pouvoir suivre aussi sur les réseaux sociaux. Mais en plus, tu vas aussi découvrir l'envers du décor, ce que ça représente aussi d'être professeur de français aujourd'hui à l'heure du numérique. Excellente écoute, tu vas adorer cet épisode. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle interview du podcast Le français avec Yasmine. Aujourd'hui, je reçois Céline, la fondatrice de l'école Os Franceses Toman Bagno, c'est bien ça?
Bonjour, oui, c'est ça, Os Franceses Toman Bagno.
Bienvenue!
Merci de m'avoir invitée, je suis contente.
Alors Céline, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter?
Bien sûr, alors je m'appelle Céline Chevalier, je suis française, je suis née à La Roche-sur-Yon en Vendée, pour ceux qui connaissent un peu. J'habite au Brésil depuis maintenant 11 ans, j'habite à Brasilia, la capitale. J'habite avec mon copain, Marie. Ici, on dit Marie même quand on n'est pas marié. Joan, nous avons une petite fille qui s'appelle Maëlle. On habite avec nos deux chats, Spoutnik, qui est français, qui est parisien et que j'ai ramené de Paris, et Zou, qui est brésilienne. Je suis donc la créatrice de la chaîne YouTube Os Françaises Estomac en Bagno et créatrice aussi du cours En France. Voilà, je crois que c'est à peu près ça.
Magnifique. Céline, est-ce que tu as toujours été professeure de français ?
Non, non, pas du tout. Moi, je suis journaliste à l'origine. J'ai travaillé pendant plusieurs années pour des revues d'art et également de photos. Donc, moi, pendant plusieurs années, mon travail, c'était de voyager dans toute la France pour interviewer des artistes, des photographes. Et quand je suis arrivée au Brésil, je ne parlais pas portugais. Donc, ce n'était pas possible pour moi de continuer à être journaliste. Et je me suis assez naturellement tournée vers l'enseignement du français. C'était, entre guillemets, le plus facile et le plus rapide. Et donc, c'est il y a 11 ans que j'ai commencé à donner des cours de français. J'ai appris sur le terrain.
Génial. Bah, moi, c'est un peu à peu près pareil. J'ai appris sur le terrain quand j'habitais en Espagne. J'avais pas du tout étudié pour devenir professeur de français. J'avais fait des études pour de business et marketing, donc un peu rien à voir. Et puis après, bah voilà, j'ai adoré donner des cours et puis j'ai développé l'école. Enfin, ce que j'ai appris dans le marketing, évidemment, m'a aidé après à développer l'école, mais c'était pas prévu, donc c'est un peu comme toi avec le t'as commencé ouais. Comme journaliste.
Et dis-moi, tu es d'où? Tu es née où?
Alors, je suis née en France et mon père est belge et j'ai grandi en Belgique.
Ah, d'accord. Et tu es née où en France?
À Lille.
À Lille. Et aujourd'hui, tu habites en Belgique?
Non, et aujourd'hui, je suis à Paris.
Ah, d'accord, super.
Donc, j'ai un peu bougé. Donc, mère française d'origine algérienne, père belge. J'ai grandi à Bruxelles, donc l'accent, il est là. Et après, j'ai un peu bougé en Espagne. Et puis, j'ai aussi bougé un peu au Brésil. D'accord. Mais je suis basée à Paris.
Ok.
Et ensuite, donc tu étais journaliste et puis tu arrives au Brésil. Mais pourquoi le Brésil ?
Ouais, pourquoi le Brésil ? Puis pourquoi Brasilia ? Parce que encore le Brésil, c'est attirant, mais c'est vrai que Brasilia, c'est pas forcément la première destination à laquelle on pense. Mais tout simplement, je me suis mariée avec un Brésilien que j'avais rencontré en France et qui était de Brasilia. Donc, on a vécu quelques mois à Paris. Ensuite, on a vécu quelques mois à Nantes parce que moi, donc, je suis née à La Roche-sur-Yon, mais j'ai fait des études à Nantes. C'est une ville que j'aime énormément. Ma sœur habite à Nantes aussi. Donc, en fait, on a habité à Nantes. Et puis, finalement, il y a eu une opportunité pour lui de travail à Brasilia. Donc, on est venu s'installer à Brasilia. C'est pour ça que je suis venue à Brasilia. Aujourd'hui, je suis... Bon, après, on s'est séparés et j'ai fait le choix de rester au Brésil et j'ai rencontré mon actuel compagnon. Mais c'est la raison pour laquelle, à l'origine, je suis venue à Brasilia.
Ah, ok. Et tu es encore à Brasilia aujourd'hui ?
Je suis encore à Brasilia aujourd'hui parce que je suis restée mariée 4 ans, je pense. Et quand on s'est séparés... j'avais ma vie ici, en fait. J'avais mon travail, j'avais mes amis, je faisais du sport et j'ai vraiment créé une famille ici. Et donc, c'est vrai que dans ce moment où finalement j'étais un peu seule parce que je venais de me séparer, j'avais ma famille, toute ma famille en France, mais j'ai vraiment recréé en fait une famille ici et j'aime le Brésil. J'ai appris à aimer Brasilia aussi. Je me sens très, très bien ici. Donc, pour moi, je ne me suis pas vraiment posé la question de rentrer en France. Pour moi, c'était normal de rester au Brésil. J'avais construit déjà pas mal de choses et je ne me voyais pas rentrer en France, en fait.
Je vois. J'ai eu la même chose quand je me suis séparée de mon copain quand j'étais à Paris. Et j'ai dit non, je ne pars pas de Paris. Je reste au lieu de retourner à Bruxelles. J'ai dit non, non, comme toi. J'ai refait ma vie, mes amis. J'ai dit hors de question de retourner à Bruxelles. J'aime beaucoup Bruxelles. Hein, pour ceux qui nous écoutent à Bruxelles, ce n'est pas contre la Belgique.
Très belle ville, Bruxelles.
Je suis très bien à Paris, comme toi, tu es aussi très, très bien à Brasilia.
Oui.
Donc, tu as commencé à donner des cours de français, langue étrangère au Brésil. Et comment tu as commencé? Tu as commencé à donner des cours dans une école ou des cours particuliers? Qu'est-ce qui s'est passé?
Donc c'était ça, je suis arrivée à Brasilia, puis d'abord je suis venue à Brasilia, puis ensuite je me suis demandé comment est-ce que j'allais vivre. J'ai fait les choses un peu à l'envers, donc j'ai commencé à donner quelques cours à des gens de la famille de mon ex-mari, et puis j'ai fait mon CV, hein, et j'ai envoyé une lettre de motivation à toutes les écoles de français de Brasilia, et j'ai commencé, il y a une première école qui m'a tout de suite dit oui. Donc, j'ai commencé à donner des cours très rapidement. J'avais pas d'expérience, mais ça a été assez instinctif. Je trouve que c'est un petit peu, pour moi, ça ressemble un peu au journalisme, dans le sens où quand j'écris un article, j'absorbe une information et j'essaye de la retransmettre de manière claire, précise, pour que les gens comprennent. Donc finalement, avec le français, c'est ce que j'ai fait. C'était une très petite école et pour dire la vérité, je gagnais vraiment pas beaucoup d'argent. C'était un salaire, c'était presque symbolique. Ça me permettait pas forcément de vivre, mais j'étais quand même contente parce que il y a des écoles qui n'ont pas voulu me faire travailler parce que j'étais pas diplômée en fait en enseignement, j'étais pas professeure. Donc il y a beaucoup d'écoles qui ont pas voulu me faire confiance, qui ont dit non, vous avez pas de diplôme, donc non. Et cette école là, elle me payait pas beaucoup, mais j'ai pu avoir ma première expérience, faire mes premiers pas comme professeur de français. Donc ça a été très bien pour moi. J'y suis pas restée longtemps. J'ai eu une autre offre un peu meilleure. Donc j'ai changé d'école. Et puis petit à petit, j'ai développé les cours particuliers. Avec le bouche à oreille, ça fonctionnait quand même bien. Donc petit à petit, j'ai arrêté de travailler pour des écoles et je travaillais seulement en donnant des cours particuliers en fait. Donc petit à petit, j'ai évolué, j'ai commencé à avoir de plus en plus d'élèves et aussi à pouvoir vivre un peu plus correctement aussi parce que le Brésil, surtout Brasilia, c'est une ville quand même assez chère. C'est pas forcément facile, donc il fallait quand même que je subvienne à mes besoins.
Bah oui, clairement. Et alors, du coup, à quel moment tu as décidé de créer ta propre structure et ton école?
Alors, ça, c'est une histoire assez drôle. J'ai rencontré donc Juan, qui est mon compagnon aujourd'hui. Et en fait, on était tous les deux dans une situation, on payait nos factures, mais c'était pas non plus la fête, quoi. Je pouvais pas trop rentrer en France quand je voulais. C'était un peu compliqué. Et j'avais, moi, cette idée de créer une chaîne sur YouTube. L'idée de cette chaîne, c'était juste d'avoir un peu de visibilité et d'avoir quelques élèves en plus. Si je pouvais avoir 4 ou 5 élèves en plus pour pouvoir vivre, pour moi, c'était bien. Mais je me connais, je suis du genre à commencer quelque chose et à ne pas aller au bout. Et j'ai dit à Juan, j'ai cette idée de faire des vidéos. Comme j'étais journaliste, je maîtrisais quand même le montage vidéo, j'avais des notions, donc ça, et j'avais le matériel aussi, j'avais une caméra, puis un petit micro, donc c'était tout bon. Et donc, il m'a dit, écoute, Céline, je te propose quelque chose, tu filmes 10 vidéos. On filme là tout de suite 10 vidéos et on les met en ligne à raison de une par semaine. Et si au bout de ces 10 vidéos, ça fera 10 semaines, s'il y a personne qui regarde, si on n'a aucun succès, c'est catastrophique, alors oui, tu pourras arrêter. Et j'ai dit, ok, d'accord. Donc, on a filmé les 10 vidéos, on a commencé à les mettre en ligne et ça a été vraiment chouette parce qu'il y a vraiment eu une réponse de la part du public, il y a eu tout de suite beaucoup de visualisations, beaucoup d'inscrits. Et je me souviens que la première fois que quelqu'un a envoyé un message en disant « Oh, est-ce que tu donnes des cours particuliers? Ça m'intéresse d'être ton élève. » Je me souviens qu'on en a pleuré, en fait, tellement on était trop contents. Mais oui, c'était ça. On a le premier élève qui venait par cette chaîne. Et en fait, ça, c'était très chouette. Donc, effectivement, j'ai rempli mon agenda de cours particuliers. Et puis, j'ai commencé à avoir une liste d'attente que j'écrivais à la main sur une petite feuille, les gens avec les numéros. Puis, au bout d'un moment, j'ai eu une centaine de personnes sur la liste d'attente. Et c'est Juan, parce que je dis souvent que c'est Juan qui est vraiment le responsable de tout ce qui s'est passé. C'est Juan qui a dit, écoute, Céline, puisque tu n'arrives pas à donner des cours particuliers à toutes ces personnes, on pourrait créer un cours en ligne. Et donc, j'ai dit, ben, d'accord. Et c'est là que j'ai créé mon cours en ligne qui s'appelle En France.
Et pour les premières vidéos que tu as filmées, donc les 10 premières, c'était en français et en portugais ou uniquement en français ?
Alors, moi, pratiquement toutes mes vidéos sont en portugais. Et ça, je pense que c'est un truc qui me vient vraiment du journalisme. Moi, je me souviens qu'à l'école, quand j'étudiais, il y avait vraiment une règle, c'est que tout le monde devait comprendre. Tout le monde devait comprendre. Si quelqu'un ne comprend pas ce que tu es en train de dire, alors tu as vraiment loupé un truc. Donc, mes vidéos sont, la grande majorité sont en portugais. Donc, mon public est essentiellement brésilien, portugais. Évidemment, on a des gens en Angola, bon, dans les pays qui parlent portugais. Mais ces 10 vidéos, c'est même encore aujourd'hui les vidéos qui sont le plus vues parce que c'était un mini cours basique, en fait. Donc, c'était vraiment pour les débutants.
Et dès le début, les vidéos, donc ta chaîne YouTube, comment tu l'as appelée ?
Donc, on a décidé, en fait, on a fait un espèce de brainstorming de 5 minutes. Et on cherchait un nom et j'avais envie, ça c'est un peu, c'est presque parfois un défaut, je veux toujours chercher la complication. Ah, et je voulais que ce soit quelque chose qui touche un peu à l'aspect culturel, qui choque un peu dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'en général, les gens, ils n'oublient pas le nom de ma chaîne ici au Brésil, parce que Os franceses tomam banho, ça veut dire les Français prennent des douches, et je peux expliquer pourquoi j'ai choisi ça. Mais l'idée, c'était aussi de pouvoir dire sur cette chaîne, je vais vous montrer, je vais vous enseigner le français, mais je vais aussi vous montrer la France et un peu casser les préjugés. Hein. L'idée, c'est vraiment d'avoir une espèce de passerelle et de pouvoir présenter la France comme elle est à nos amis brésiliens. Et donc, du coup, on a choisi ce nom, « Les Français prennent des douches », un peu pour choquer les gens parce que ici au Brésil, les Brésiliens pensent que les Français ne se lavent pas. Et donc, moi, quand je suis arrivée au Brésil, j'ai entendu plusieurs fois, il y a même des gens qui m'ont demandé, Céline, você toma banho todo dia? Céline, est-ce que tu prends des douches tous les jours? Donc, le nom de ma chaîne, c'est pour rétablir la vérité, Yasmine. C'est ma mission ici au Brésil.
Que oui, les Français prennent leur douche. Mais quand j'étais à Rio, donc je suis restée à Rio 5 mois l'hiver dernier, je te dis même pas combien de fois on m'a posé la question. Donc, c'est pour ça que moi, j'adore le nom de ta chaîne.
Ouais, mais c'est terrible. Tu sais qu'une fois, j'étais malade et j'ai été à l'hôpital et le médecin m'a posé la question. Il m'a dit, Céline, c'est pas personnel, mais dis-moi, est-ce que tu prends des douches tous les jours ? Et je me suis dit, mon Dieu, je me lave pas bien, c'est ça, c'est le diagnostic, c'est pour ça que je suis malade. Pourquoi est-ce qu'il me demande ça ? Et donc, je réponds à tout le monde qui se pose cette question, oui, je prends des douches tous les jours. La majorité des Français prennent des douches tous les jours. Ça, c'est vraiment, c'est un mythe. Peut-être que c'était vrai il y a quelques années, peut-être que, je crois que ça part de l'époque des rois. À cette époque, on pensait que la crasse protégeait des maladies. Donc, on se lavait pas forcément, on se lavait pas tous les jours, parce qu'on pensait que de se laver, ça allait enlever la protection contre les maladies. Ça, c'est une des explications. Une autre explication aussi, c'est, alors tout ça, je dis, mais je sais pas si c'est vrai, hein. Quand les Français sont arrivés il y a très longtemps au Brésil et que les femmes portaient des perruques, la colle qui faisait tenir les perruques sur la tête était à base de poisson. Et donc, ça sentait très mauvais et le parfum aurait été inventé justement pour masquer cette odeur nauséabonde qui émanait de la tête des Françaises. Tout ça, c'est des choses que j'ai entendues. Je sais aussi, et ça, c'est vrai, par exemple, quand mon papa était petit, à l'époque, mon papa aujourd'hui, il a 67 ans, mais quand il était petit, par exemple, il se lavait pas forcément, il prenait pas une douche tous les jours parce que l'eau était un peu rare. Et donc, il faisait ce qu'on appelle une toilette de chat pendant la semaine. Et le week-end, il y avait un bain qui était coulé dans une bassine, dans la cabane au fond du jardin. Donc, c'est vrai qu'en France, Peut-être que oui, on prend pas autant de douches, en tout cas qu'au Brésil, parce que c'est vrai qu'au Brésil, c'est un pays où il fait chaud et où les gens prennent très facilement une douche, même au milieu de la journée.
Mais ils la prennent tout le temps au Brésil. C'est incroyable. J'ai jamais vu des personnes qui se douchaient autant. Après, ils sont super propres forcément, mais ça peut être 4-5 douches.
Oui.
Moi, j'ai vraiment été surprise quand j'ai vu ça. Après, c'est vrai, il fait très, très chaud.
Mais bon, dans le Nord-Est, c'est vrai, par exemple, que tu sors de ta douche et que tu es déjà en sueur. Donc, effectivement, oui, je comprends.
Est-ce que ton nombre de douches par jour a changé depuis que tu es au Brésil ?
Bah écoute, franchement, alors là, je vais rentrer dans un truc très intime, mais moi, quand j'étais petite, j'avais un problème et personne ne me croit quand je dis ça. Il faut demander à ma mère. Ma mère peut le prouver. Je prenais jusqu'à 7 douches par jour. Donc, j'avais un problème, d'accord ? J'avais un problème. Non, mais aujourd'hui, je prends une ou deux douches. Non, ça n'a pas vraiment changé, mais il y a aussi la question écologique. Hein, en France, les gens, en général, tu me dis si je me trompe, mais prennent une douche par jour et pas plus, c'est ça ?
Oui, vraiment pas plus, sauf les personnes, par exemple, qui font de la moto ou du Vélib, enfin, tu vois, du vélo en journée. Donc là, en général, s'ils ont transpiré la journée, ils vont aussi en prendre le soir.
C'est vrai.
Sinon, il y a aussi, j'ai eu un débat avec des élèves. Quand les gens prennent leur douche en France, est-ce que les gens la prennent plutôt le matin ou le soir ? Là, il y a aussi les deux écoles. Il y a des personnes qui préfèrent prendre leur douche le matin parce que ça les réveille, donc ils savent qu'ils ont commencé leur journée. Et d'autres qui préfèrent la prendre le soir en disant « Bah non, j'ai été dehors, dans la rue, j'ai pris le métro. » Donc, quand je rentre chez moi et que je vais me coucher dans mon lit, je veux être propre. Uh-huh. Donc, il y a les deux écoles.
Ouais. Et toi, tu prends ta douche quand ?
Je prends ma douche le matin. Je ne peux pas commencer ma journée sans douche. Tant que je n'ai pas pris ma douche, ma journée n'a pas vraiment commencé. Et je déteste aussi, par exemple, sortir de chez moi sans douche. J'ai l'impression que j'ai une couche de crasse sur moi. Donc, moi, je suis morning shower.
C'est drôle, mais c'est une question très personnelle. Mais je sais qu'il y a des études qui ont été faites comme ça sur les douches en Europe, etc. Mais en tout cas, c'est vrai que quand je suis arrivée au Brésil, moi, je n'avais jamais entendu dire que les Français ne se lavaient pas. C'est vraiment quand je suis arrivée au Brésil que j'ai entendu ça pour la première fois. Et donc, du coup, le nom de la chaîne, c'est vraiment un clin d'œil à ça, à cet aspect culturel.
Le nom est génial. Tu as commencé la chaîne en quelle année ?
Je ne sais plus parce que je suis nulle en date, mais je pense que c'était peut-être en 2018, il y a 4 ans. Ouais, je pense que c'était il y a 4 ans et demi.
Et là, tu continues à publier sur cette chaîne, elle est active encore aujourd'hui.
Oui, bien sûr, Alors, les vidéos ont évolué, je fais beaucoup de directs aussi, j'aime bien de temps en temps faire des vlogs. Alors, quand je fais des vlogs, c'est tout en français, donc en général, je propose aussi la traduction, il y a les légendes. Et je suis aussi très active sur Insta, sur TikTok, on fait beaucoup de choses. Hein. C'est vraiment aujourd'hui, pour moi, un travail à plein temps. On a une équipe. J'ai des gens qui travaillent avec moi. Je ne suis plus toute seule, bien sûr. J'ai toujours travaillé avec Joan, mais on a aussi une équipe qui nous aide dans plusieurs aspects. Donc c'est vraiment, ouais, aujourd'hui, c'est vraiment une entreprise avec... On a plus de 7000 élèves dans notre cours en France. Donc, on ne s'ennuie pas.
Waouh, magnifique. C'est extraordinaire. C'est vraiment tellement beau. Est-ce que tu continues à donner des cours particuliers aujourd'hui ?
Non, aujourd'hui, je donne plus de cours particuliers parce que j'ai vraiment pas beaucoup de temps, mais j'avoue que ça me manque. Ce contact avec les gens, ça me manque. Et d'ailleurs, cette année, on a fait la première édition d'un voyage en France avec des élèves du cours. Donc, je suis partie avec une vingtaine d'élèves du cours en France. On est partie dans le sud de la France. On est partie à Cannes. Et donc, c'était un moment super pour moi parce que ça me manque cette connexion de pouvoir partager du temps. En plus, il y a eu la pandémie. Donc, c'est vrai que les choses aujourd'hui se font beaucoup plus facilement en ligne, mais j'ai besoin de ce contact avec les gens. Ça me manque. Mais pour l'instant, pas de cours particulier. Mais j'exclus pas de pouvoir, à un moment donné, recommencer à faire ça parce que c'est vraiment chouette.
Oui, après, c'est bien de faire des pauses aussi, hein, parce que, par exemple, moi, j'ai commencé avec, en donnant des cours particuliers. Après, je suis passée par les cours en groupe. Mm-hmm. Et à un moment, mon cerveau avait besoin de faire une pause des cours particuliers, de toujours devoir me répéter.
Ouais. Et,
donc, j'ai fait une pause pendant 2 ans.
Ouais, c'est vrai que c'est aussi un peu fatigant parce que on est professeur, mais on est un peu animateur aussi. Donc il faut avoir de l'énergie. Et donc c'est vrai que oui, moi je sais qu'il y a eu une période, je sais pas toi combien de cours particuliers tu as déjà été capable de donner en une journée. Moi j'ai eu des périodes où je donnais 7-8 cours dans la journée et c'est très très fatigant, c'est-à-dire que c'est super chouette et tout, mais effectivement c'est fatigant. Après les directs, tout ce qui est en ligne, moi je trouve aussi que parfois c'est fatigant aussi. C'est un autre type de fatigue, mais les réseaux sociaux, c'est énormément d'informations, ça ne s'arrête jamais. Quand il est minuit au Brésil, il est, je sais pas moi, il est 20h quelque part dans le monde, donc on reçoit des messages aussi tout le temps. Donc il y a aussi ces côtés comme ça un petit peu plus difficiles dans l'enseignement en ligne.
Ah oui, mais avec les réseaux sociaux, moi j'étais très active pendant le confinement sur Instagram. J'ai eu plein d'élèves grâce à ce réseau. D'ailleurs, je suis vraiment une fan d'Instagram. Et c'est comme ça que j'ai trouvé en fait. Donc j'avais entendu, en fait, je prenais des cours de portugais brésilien et je me suis dit, je vais commencer à suivre des professeurs de portugais brésilien sur Instagram. J'ai trouvé ma prof de portugais qui est extraordinaire, qui est une brésilienne qui habite à New York. Et je me suis dit, je vais chercher des profs de français qui veulent enseigner le français uniquement à un public brésilien. Comme ça, je vais avoir les explications en portugais sur des expressions françaises. Et donc, en fait, c'est comme ça que j'ai trouvé. Donc, j'apprends plein de choses. Évidemment, je ne suis pas du tout ta cliente cible. Mais ton contenu est extraordinaire parce que comme tu parles en portugais, bah, du coup, j'en profite pour pratiquer. Et puis, tu expliques des expressions, par exemple, françaises et tu la traduis en portugais. Ah, c'est comme ça qu'on dit.
Ouais.
Donc, les réseaux sociaux, ça aide aussi dans ce sens-là, mais c'est vrai que c'est hyper chronophage. Et puis, donc, ça apporte des clients, mais il ne faut pas oublier que c'est du contenu qui est gratuit en général. Et il y a parfois des personnes qui ne pensent pas ou qui ne s'imaginent pas la montagne de travail qu'il y a derrière une vidéo sur YouTube, une vidéo sur Instagram, un live sur Instagram ou sur YouTube. C'est énormément de travail. Et il y a l'énergie, c'est énergivore aussi. Par exemple, pendant tout un moment, j'avais énormément de messages sur Instagram en privé, mais je voyais de tout. Est-ce que tu peux corriger mon devoir? Est-ce que tu peux corriger ma lettre de motivation? Jusqu'au jour où j'ai dit, je ne réponds plus aux messages privés sur Instagram. J'envoie directement sur le site de l'école ou sur la liste d'attente des cours. J'ai dit, voilà, si tu veux me poser des questions, moi, je ne donne pas cours gratuitement. C'est par là, mais c'est vrai que tu te fais passer un peu pour un requin aussi, hein, de pas répondre en message privé, mais d'un autre côté
c'est très difficile parce que à la fois je sais pas, c'est vrai que moi ça m'arrive de me sentir coupable si je réponds pas à quelqu'un, etc. Et en même temps, on n'arrive pas, ça c'est sûr qu'on n'arrive pas à répondre à tout le monde. Moi aujourd'hui j'ai une équipe, donc on arrive quand même à satisfaire assez bien les gens qui nous écrivent. Après, ce qui est hyper difficile, c'est ça, c'est de trouver la limite en fait, parce que le réseau social n'a pas de limite. Donc si toi tu mets pas de limite, ben tu te laisses bouffer. Après, c'est hyper difficile aussi de la frontière entre le professionnel et le personnel. Je sais pas toi comment est-ce que tu travailles. Nous aujourd'hui, on a un bureau, donc par exemple là je te parle maintenant, je suis pas chez moi. Je suis dans mon bureau, donc on a réussi, ça c'est une chose qui m'a énormément aidée, à établir une frontière entre le professionnel et le personnel. Parce que pendant la pandémie, travailler à la maison c'est génial parce qu'on peut travailler en pyjama. Oui, mais ça veut dire que le soir, quand tu es chez toi et qu'il est 20h et que normalement tu devrais être tranquille, eh ben en réalité tu penses à ton travail. Et ça, moi je sais que c'est quelque chose qui m'a vraiment fait du mal. Et quand ma fille est née, ma fille a 2 ans. Quand elle est née, on a dit non, il nous faut un bureau parce que je ne peux pas être là dans mon salon à travailler. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel il faut vraiment faire attention parce que ça peut faire du mal, je trouve.
Hein. Oui, mmh. Bah, c'est clair. En plus, on a tendance, étant donné que c'est notre entreprise, c'est notre passion aussi. Et donc, du coup, on a du mal à dire, bah non, je vais faire ça demain. Bon, allez, ça me demande 2 secondes, je vais le faire maintenant.
Ouais.
Mais oui, il faut séparer. Les confinements nous ont aidés, je pense, aussi avec les réseaux sociaux parce qu'on a été beaucoup, beaucoup plus visibles parce que tout le monde était devant son écran.
Mmh, bien sûr.
Et donc, évidemment, pour nous, ça a été vraiment incroyable. Mais après, oui, mentalement, je pense que ça a été très compliqué. Moi, à la fin du deuxième confinement, j'ai pété les plombs. J'ai dit, je n'en peux plus. Je n'en peux plus d'avoir autant d'élèves, je n'en peux plus d'avoir autant de professeurs. L'école avait grandi trop vite et j'ai dit stop. Donc, j'ai tout réduit, j'ai retiré des cours, j'ai arrêté Instagram et j'ai juste continué le podcast parce que c'est le seul truc qui me passionnait. Mais parce que aussi, voilà, c'était partout. Mon école était partout. Dans mon lit, dans ma chambre,
exactement.
Dans ma maison.
Ouais, et moi, je travaille avec Juan en plus. Donc, mon mari, c'est mon associé, tu vois. Donc, il y a ça qui est difficile. Et en fait, ce qui est vraiment difficile, c'est que les réseaux sociaux, à la base, c'est un outil. Donc moi, je ne suis pas allée sur YouTube pour me dire « Ah, cool, je vais être sur YouTube ». Je me suis dit « Ah, j'ai envie d'enseigner le français, je sais faire des vidéos, je vais utiliser YouTube pour atteindre en fait les gens, tu vois, pour permettre aux gens de pouvoir regarder ». Et en fait, il y a un moment donné où ça s'est inversé, c'est-à-dire que j'utilisais YouTube jusqu'au moment où je suis devenue, où je travaillais pour YouTube. Parce que l'algorithme, parce que si tu publies pas pendant tant de temps, et à quel horaire est-ce qu'il faut publier? Moi, quand j'ai commencé mon cours, je me disais pas, ah, quel horaire, à quelle heure c'est le mieux, tu vois. Je me disais, tiens, moi, j'ai envie de poster tous les lundis à 18h, je vais faire ça, et puis c'est tout. Et puis non, à un moment donné, c'est vraiment devenu un peu, on devient un peu esclave en fait finalement des réseaux sociaux. On doit fournir du contenu, on doit fournir du contenu, et c'est ça qui est dommage parce qu'il y a des jours où on n'a rien à dire mais il faut créer du contenu, et donc ça c'est un piège un petit peu dans lequel il faut essayer de pas tomber. Donc je trouve que tu as été courageuse de réduire et de choisir ce que tu voulais vraiment faire, parce que c'est ça, les possibilités sont infinies, et à un moment donné il faut savoir se dire qu'est-ce que j'aime vraiment faire, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, et se concentrer sur ça, parce que sinon, ça n'en finit jamais, quoi.
Ouais. D'ailleurs, je voulais rebondir sur le fait que tu disais que tu avais donc pris un bureau, parce qu'évidemment, moi, j'ai vu les vidéos, il est très beau, ton bureau.
Merci. Alors ça, c'est pareil, c'est Juan. Hein. La déco, c'est Juan qui s'occupe de tout.
Non, mais c'est génial, parce que les vidéos sont super belles, le fond et tout, donc ça donne vraiment envie de rentrer dans ton univers.
Bah, c'est vrai que si je peux donner un conseil aux gens qui s'intéressent au travail sur les réseaux, au marketing digital, etc., c'est vrai que de soigner ce qu'on fait, d'essayer d'avoir quelque chose qui semble bien professionnel, avec une grande qualité, ça, c'est sûr que ça, pour se démarquer des autres, ça, c'est quelque chose qui est important. C'est quelque chose sur lequel auquel on a toujours fait attention. Si tu dois faire un PDF, distribuer un PDF aux gens, que le PDF soit beau, soit bien fait, ça, c'est quelque chose qui est important, parce que c'est ce qui va donner envie aussi aux gens de... C'est la crédibilité, en fait. Donc ça, c'est vraiment très important.
Ah oui, oui, absolument. Et donc, en ce moment... Si les personnes veulent rentrer dans ton univers, ils doivent aller où? Sur Instagram, sur YouTube? Comment on fait pour suivre des cours avec Céline?
Alors oui, donc il y a effectivement tout le contenu qu'on propose gratuitement, donc sur YouTube, sur Insta, sur TikTok, on a un groupe sur Telegram et tout. Donc ça, c'est très facile, hein, de mettre « Os franceses toman baño ». je pense que tu peux peut-être mettre le lien aussi dans la description de ton podcast.
Il sera donc, dans les notes de l'épisode.
Voilà, et on a un site internet avec le même nom, et sur le site internet, pour ceux qui sont intéressés, qui veulent un cours, c'est vraiment un cours complet, donc de zéro à parler couramment français. Et donc, on a le lien sur notre site internet, le lien aussi dans la bio de Insta. Donc, je communique régulièrement dans les stories, etc. Donc, c'est assez facile de trouver. Le cours s'appelle En France. C'est un cours dont je suis assez fière parce que je l'ai vraiment fait toute seule de A à Z. Et aujourd'hui, on a aussi des rencontres de conversation. Donc, on a aussi une équipe de professeurs. Et suivant l'option que la personne va choisir, elle peut faire des cours, des rencontres de conversation. Il y a plusieurs niveaux. On propose des niveaux qui vont de débutant à avancé, en passant par intermédiaire, bien sûr. Donc, c'est vraiment très complet. Les Brésiliens qui veulent apprendre à parler français peuvent à tout moment s'inscrire sur ce cours. Le cours et les inscriptions sont ouvertes en continu. Donc, il n'y a pas besoin d'attendre, vous pouvez vous inscrire quand vous le souhaitez.
Oh, magnifique. Avant de te laisser partir, Céline, j'aimerais te poser une dernière question.
Bien sûr.
Si tu avais un seul conseil à donner à une personne qui a envie d'apprendre le français,
oui,
qu'est-ce que tu lui dirais ?
Je lui dirais de faire rentrer le français dans sa vie. C'est-à-dire que moi... Tu sais, j'ai étudié l'espagnol pendant 8 ans au collège, au lycée, etc. J'avais même des bonnes notes. Et quand je suis arrivée au Mexique, j'ai passé quelques temps au Mexique. Quand je suis arrivée au Mexique, je me suis rendu compte que je croyais que je parlais espagnol. Et en réalité, je suis arrivée au restaurant et j'étais incapable de passer ma commande. Et quand je suis arrivée au Brésil, je ne parlais pas portugais. Et en 2 mois... je me débrouillais très bien en portugais. Et donc, du coup, je prends souvent cet exemple et les personnes me disent « Ah, Céline, ça veut dire que pour apprendre à parler français, il faut que j'aille en France ou en Belgique ou en Suisse ?» Non, on n'est pas obligé d'aller habiter en France. Tout le monde ne peut pas aller habiter en France ou à Montréal ou que sais-je. Mais faire rentrer le français dans sa vie, mettre son téléphone en français, regarder l'actualité, les informations en français, écouter un podcast de Le Français avec Yasmine,
ouais.
une série sur Netflix, écouter une musique et vraiment se plonger comme ça dans la culture française sans que ce soit un poids. Étudier le français, ça ne veut pas forcément dire s'asseoir à une table avec un livre de grammaire et passer 3 heures à faire des exercices. Oui, c'est important, mais ce n'est pas que ça. Donc vraiment, se plonger dans la culture française au maximum, pour moi, c'est vraiment la manière la plus naturelle et la plus efficace d'apprendre à parler français.
Extraordinaire. Non, mais c'est vrai, il faut que la langue soit omniprésente de manière quotidienne, sinon c'est le meilleur moyen. Le cerveau n'aime pas apprendre des langues à la base, hein, donc si on lui met une petite pause, il en profite pour, pour tout stocker.
Je suis d'accord.
Céline, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et de venir dans mon podcast. C'était vraiment un plaisir. Ça faisait longtemps que je voulais t'avoir parmi mes invités.
Non, merci à toi. C'est trop chouette. J'adore ça. J'adore discuter. J'espère qu'on aura aussi l'occasion de se rencontrer en vrai, comme ouais. on dit. Peut-être lors d'un prochain passage à Paris ou si toi, tu viens au Brésil. Et dis-moi, comment est-ce que les gens parce que je vais partager, évidemment, cette interview, comment est-ce que les gens, ils peuvent avoir accès à la transcription ?
Alors, la transcription, je vais t'envoyer un lien et ce ouais. sera un PDF à télécharger. Donc, je te l'enverrai par mail. Et donc, toute ton audience pourra avoir accès à la transcription. Il y aura une dizaine de pages, je crois.
Et il me semble que tu proposes aussi au public en général un système de souscription pour oui. pouvoir avoir accès aux transcriptions, c'est ça ?
Oui, alors pour le moment, c'est un abonnement. Donc, toutes les semaines, D'accord. ils reçoivent une newsletter en français que j'écris personnellement. Dans la newsletter, je parle un petit peu de mon parcours. Là, pour le moment, j'explique mon parcours avec le portugais brésilien, donc mes galères. Mm-hmm. Je les partage.
Ah, génial.
Donc, on est tous dans le même bateau. j'ajoute un petit mot concernant l'épisode qui va arriver, qui va sortir. Je rajoute 2 ou 3 recommandations de matériel en français que j'ai trouvé en ligne. Donc, ça peut être un article de presse, un épisode de podcast que j'ai aimé ou par exemple un documentaire. Et tout nouveau, j'ai rajouté aussi une expression française. Donc, par exemple, mêle-toi de tes oignons, ça fait un bail. J'explique Génial. J'explique l'expression dans la newsletter. Et donc, quand la newsletter sort et que les élèves reçoivent la newsletter, en fait, ça indique aussi que l'épisode est publié et que la transcription est prête dans leur espace membre. Donc, ils peuvent la télécharger. Je recommande toujours de la télécharger et de l'imprimer. Je sais, c'est pas très écologique, mais il n'y a rien de mieux que d'imprimer un document et d'étudier sur un document qui est sur une version papier. Parce
je suis que complètement d'accord.
Si on étudie sur un écran, en fait, on a 40 000 distractions. Il y a Instagram, il y a les mails, il y a Facebook, il y a LinkedIn. et donc, on n'arrive pas vraiment à se concentrer. Et là, je suis en train de travailler sur un tout nouveau projet. Toutes les transcriptions vont être dans un livre, dans plusieurs volumes.
Ah, génial.
Et ça sera disponible sur Amazon. Donc, c'est il y a le tome 1, c'est de l'épisode numéro 1 au numéro 50. Et puis après, du numéro 51 au numéro 100, c'est tome 2. Et donc là, je suis en train de terminer. Peut-être qu'à la publication de ton épisode, le livre sera prêt. Il est presque prêt déjà, mais je vais
donc
le...
Donc, c'est un livre imprimé.
Ce sera version papier, donc il y aura toutes les transcriptions qui ont déjà été publiées. Et entre chaque transcription, il y aura une page avec écrit « À ton tour ». Comme ça, les élèves peuvent prendre des notes, faire des petits exercices et aussi écrire leurs propres exemples. Parce que je dis toujours que pour bien imprimer, mémoriser et digérer surtout la grammaire, le meilleur moyen, c'est d'écrire ses propres exemples et de toujours écrire avec une version à la négation et puis après au passé composé et avec les verbes auxiliaires parce que avec les en fonction des mots, et ben les mots peuvent changer de place. Donc par exemple, je le donne, je vais le donner, je ne vais pas le lui donner, des choses comme ça. Et donc on a ajouté une page pour les aider à pratiquer.
C'est génial, très beau projet, félicitations. Mais écoute,
merci beaucoup.
Je vais regarder tout ça avec intérêt. Merci beaucoup de m'avoir reçu, c'était trop bien de parler avec toi.
Merci Céline, à très bientôt.
À très bientôt.
Tu veux continuer cette conversation avec moi? Je te donne rendez-vous sur le site de l'école islandfrench.eu. À bientôt !